À Bamako et à Kidal, 21h à Lomé et à Freetown. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Au Mali, les droits des enfants sont malmenés, selon Amnesty International. Nous ferons également un nouveau bilan de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest.
L'épidémie bouge d'une manière qui est non linéaire et peut croiser une frontière et revenir, c'est-à-dire que tant que les trois pays n'ont pas contrôlé de manière simultanée l'épidémie, elle n'est pas résolue.
Nous entendrons Georges Castilla, coordinateur médical à la Commission d'aide humanitaire de l'Union européenne. Nous ferons également le point sur la situation des réfugiés au Mali et particulièrement à Tombouctou. Enfin, rubrique éducation au Togo, où beaucoup d'enfants ne vont pas en maternelle, ce qui complique leurs chances de réussite à l'entrée à l'école. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Ici Chérubin Dorsil. En République centrafricaine, les prochaines élections générales ne se tiendront plus en janvier, mais plutôt fin 2015, ont annoncé les autorités ce lundi à Bangui. Selon Dieudonné Kombo Yaya, président de l'Autorité nationale des élections, le délai fixé est intenable.
Il est pratiquement intenable, impossible d'organiser des élections en février 2015. Pourquoi ? Parce que les conditions administratives et financières ne permettent pas. Vous savez, nous n'avons pas de budget. D'abord, le décret portant organisation et fonctionnement de l'État a été signé en juin dernier. Et puis, les documents de travail, c'est maintenant que nous les mettons en place. Donc, il est pratiquement impossible de tenir ces élections 2015.
Dieudonné Kombo Yaya, président de l'Autorité nationale des élections à Bangui. Le gouvernement du Mali et les groupes rebelles du Nord se retrouvent à Alger pour la deuxième partie des négociations de paix. Sur le terrain, dans le Nord malien, les populations de Gao attendent impatiemment les résultats de ces pourparlers. Boubacar Touré.
Les populations de la région de Gao, comme tous les Maliens, ont les yeux braqués sur la capitale algérienne devenue la ville la plus importante au monde pour les Maliens, actualité oblige. À Gao, certains souhaitent que des accords définitifs soient signés une fois pour toutes, mais attention, pas à n'importe quel prix. Oumar Dia, fonctionnaire à la retraite, représentant des sociétés coopératives de consommation de Gao.
Nous, notre souhait, que ça soit vraiment la définitive, quoi, parce qu'on a eu tellement de réconciliations. Finalement, on ne croit même pas à ça. Mais si c'est la dernière qui permet d'amener la paix au Mali, on ne souhaite que ça. Ceux qui se disent rebelles, c'est des Maliens comme nous. Ceux qui ont dans la tête là, diviser, avoir une partie, ça c'est impossible. Ils n'ont qu'à venir, que nous soyons tous là-dedans. Ils ne souffrent pas plus que nous. Alors tant qu'on n'a pas la paix, on ne peut pas se reposer sur cette organisation.
Gao, Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a lancé une attaque lundi avant l'aube contre l'armée à Bama, dans le nord-est du pays, entraînant de violents combats et la fuite des habitants. Des combattants islamistes en grand nombre ont surgi à bord de camions et de camionnettes et ont attaqué les soldats qui ont riposté, a dit un habitant. Les combats auraient duré plusieurs heures. Le ministère nigérian des Affaires étrangères a annoncé la tenue mercredi à Abuja d'une réunion internationale consacrée à la sécurité et la lutte contre Boko Haram à la suite du sommet qui s'était tenu à Paris en mai. Les chefs de la diplomatie, des voisins du Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin sont invités, ainsi que ceux des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Chine et du Canada. 10 soldats libyens ont été tués et 10 autres blessés aujourd'hui dans des combats avec des djihadistes qui tentaient d'avancer vers l'aéroport béninin situé dans le sud-est de Benghazi, rapporte l'agence France-Presse qui cite un porte-parole militaire. Au Sénégal, le procès pour enrichissement illicite de l'ancien ministre Karim Ouad a été marqué ce lundi par la comparution controversée de son principal complice présumé, Ibrahima Abou Khalil Bourgi, dit Bibo. Karim Ouad, en détention préventive depuis avril 2013, est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller, puis ministre de son père, l'ancien président Abdoulaye Ouad. L'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 1500 morts cette année en Afrique de l'Ouest, la plupart en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Et samedi, le gouvernement libérien a mis fin à la mesure de quarantaine imposée dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation du virus. Les habitants de West Point, à Monrovia, n'avaient pu sortir de leur quartier pendant 10 jours, ce qui avait provoqué des manifestations et des émeutes. Dans l'un des incidents, 4 personnes avaient subi des blessures, dont un adolescent de 16 ans qui est mort par la suite. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a ordonné une enquête. L'Afrique australe a annoncé ce lundi une sortie de crise au Lesotho. Après le coup de force de l'armée, le Premier ministre en fuite rentre demain. Des observateurs vont être envoyés et le Parlement doit être rétabli.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le nord de l'Irak, les troupes irakiennes aidées de combattants kurdes et de militants chiites sont entrées dans la ville de Sulayman Beg, au sud de Kirkuk, ce lundi, mettant fin à 3 mois de contrôle par les militants de l'État islamique. Hier, les forces irakiennes ont mis fin à 2 mois de siège des militants islamistes autour de la petite ville d'Amirli, rendant possible l'arrivée d'une aide humanitaire d'urgence. Les troupes ont bénéficié, là aussi, de l'appui de miliciens chiites, selon les autorités. L'armée américaine avait largué hier des milliers de litres d'eau et de la nourriture à Amirli. Le Pentagone a aussi annoncé de nouvelles frappes aériennes contre les positions des djihadistes de l'État islamique qui combattent les forces irakiennes et kurdes près du barrage stratégique de Mossoul.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par les violations des droits humains des mineurs au Mali, selon l'ONG Amnesty International. Des enfants qui peuvent être recrutés comme enfants soldats par des milices et d'autres qui sont incarcérés par l'État malien dans des prisons avec des adultes, ce qui est proscrit par le droit international. À la suite d'une mission de recherche menée au Mali en juin 2014, ce rapport d'Amnesty International détaille ces abus. Le chercheur et rédacteur de ce rapport, Gaëtan Muntou.
Il y a une constante au Mali. Depuis le début du conflit en 2012, il y a des enfants, dont des adolescents, qui ont été recrutés à la fois par des milices pro-autorité malienne et ensuite par des groupes d'opposition armée, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ces deux groupes armés ont utilisé des enfants soldats pour aller combattre lors du conflit dans le nord Mali. À la suite de l'intervention française et africaine en janvier 2013, plusieurs enfants ont été détenus à la fois à la prison civile de Bamako et ensuite au camp 1 de la gendarmerie en compagnie d'adultes, ce qui est contraire aux instruments internationaux sur la protection de l'enfant ratifiés par les autorités maliennes. De plus, les autorités maliennes s'étaient engagées auprès des Nations Unies de remettre tous les enfants arrêtés en lien avec le conflit, les organismes de protection de l'enfance.
Et vous avez des mots relativement durs pour le gouvernement malien que vous accusez de bafouer les droits humains.
Les autorités maliennes ont ratifié des conventions internationales et nous demandons aux autorités maliennes de respecter les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis de l'opinion internationale et vis-à-vis de leur propre gouvernement.
La délégation d'Amnesty a enquêté sur les affrontements qui ont eu lieu en mai 2014 à Kidal.
En fait, ce qui s'est passé, les membres des groupes armés ont pénétré dans le gouvernorat après le départ du gouverneur ainsi que le départ du Premier ministre et ont exécuté de manière délibérée et sommaire au moins 8 civils, dont des hauts fonctionnaires. Et nous nous demandons à ce qu'il y ait une enquête puisque d'après l'accord qui a été signé entre les groupes armés et les autorités maliennes, il y a une commission d'enquête internationale qui devait être constituée pour faire la lumière sur ces événements. Et donc, nous demandons la mise en place de cette commission afin de faire la lumière sur ces événements et que les responsables de ces homicides soient poursuivis par une justice.
Gaëtan Muntou, chercheur pour la section Afrique d'Amnesty International. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102 FM, notre fréquence à Bamako. Épidémie Ebola, encore et toujours, le bilan a donc dépassé les 1500 morts en Afrique de l'Ouest la semaine dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui dit s'attendre à plus de 20 000 cas de fièvre Ebola dans la région. Georges Castilla est coordinateur médical à la Commission d'aide humanitaire de l'Union européenne et il vient de terminer une tournée régionale dans les principaux pays touchés. Bagassi Koura lui a demandé quel bilan il tirait de sa visite. Georges Castilla.
J'ai découvert que la situation n'est pas bonne du tout, dans le sens que les services d'hospitalisation sont débordés. Cela veut dire qu'on est allé au-delà d'avoir des patients dont on ne connaît pas la localisation et qui sont en train de participer à l'extension de la maladie, mais en fait qu'il y a des patients qu'on connaît, mais dont il n'y a pas la capacité de leur traiter, de les isoler, de les aider. Donc, c'est des patients qui sont refusés et qui retournent dans leur communauté et continuent la transmission.
Vous savez, cette épidémie a démarré en Guinée, mais vous dites que la Guinée est le pays qui connaît la situation la moins grave.
Ce qui est vrai, cette épidémie, c'est un peu comme un feu qui a des cendres qui peuvent réaviver un deuxième feu. Et en plus, l'épidémie bouge d'une manière qui est non linéaire et peut croiser une frontière et revenir. C'est-à-dire que tant que les trois pays n'ont pas contrôlé de manière simultanée l'épidémie, elle n'est pas résolue.
Ce que le grand public ne comprend pas, c'est qu'un grand nombre d'agents de santé a péri dans cette épidémie, alors que c'est un groupe très averti. Comment vous expliquez cela?
Donc, on se trouve ici, dans les trois pays, peut-être au monde, qui ont parmi les plus basses d'investissement dans le secteur santé par rapport au budget national et un des plus basses et faibles ratios de personnel de santé par rapport à la population. Donc, c'est déjà un système de santé qui n'est pas très bien fourni avec très peu de personnel. Si en plus de ça, on voit que cette épidémie n'existait pas avant en Afrique de l'Ouest et qu'il n'y avait pas donc une préparation ou une expectative. Et si on sait que le système de santé est mal fourni, aussi bien en capacitation qu'en matériel de protection personnelle, ce n'est pas étonnant d'avoir une haute taux d'attaque parmi les staffs santé qui étaient déjà pas trop nombreux.
On dit qu'il faudra au moins 6 mois pour maîtriser cette épidémie. C'est votre avis?
C'est mon avis.
Vous avez fait cette tournée. Dans quel secteur ces pays ont besoin de plus d'aide?
L'élément le plus important maintenant, c'est les traitements et l'isolation des patients. Parce que si on n'a pas un endroit où aider les patients, ça n'a pas de sens de faire des laboratoires ou de faire des suivis des contacts si on ne peut pas offrir aux gens qui sont malades certains soins et en même temps la possibilité de les retirer de leur communauté pour que la transmission au niveau de leur foyer, vers leur famille, vers leurs voisins ne s'efface plus. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est des volontaires qui viennent des pays qui écoutent cette émission maintenant, qui sont prêts à aider avec le contrôle de l'infection et l'épidémiologie d'intervention. Des gens qui ont des diplômes et qui ont envie de faire quelque chose pour contrôler cette situation, pour qu'ils ne sortent pas au-delà de nos mains et qu'ils aillent pire que la situation actuelle qui est déjà pas bonne.
Georges Castilla est coordinateur médical à la Commission d'aide humanitaire de l'Union européenne. Nous revenons au Mali pour faire un point sur la situation des réfugiés et notamment à Tombouctou après la visite du haut commissaire pour les réfugiés. Lors de sa visite dans la cité des 333 saints, Antonio Guterres a rencontré des familles de déplacés et de rapatriés au centre Ahmed Baba. Il a pu entendre leur difficile retour d'exil et leurs difficultés dues au manque d'infrastructures de base comme les centres de santé, les écoles ou simplement l'accès à l'eau potable. Le point avec Kassim Traoré.
Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est fort de cet adage que le haut commissaire pour les réfugiés en visite au Mali s'est rendu à Tombouctou afin d'échanger directement avec les populations de la cité des 333 saints. Mohamed Ould Maouloud Diben, un réfugié de retour.
C'était une parme, il a 7 mois adhéré, il n'a rien vu autre que les cartes des HR, là, leur ont été retirées et ils n'ont plus rien vu. Ceux qui sont rentrés aussi, c'est la même chose, c'était à la frontière.
Une fois de retour au Bercail, il n'y a aucune structure formelle dans les régions pour accueillir les réfugiés et déplacés. Alpha Gatouré de Direi.
La commune de Dukuria, il y a 80% qui sont revenus. La commune de Sakan, il y a eu 40%. Mais j'ai retourné en désordre. Donc nous demandons l'aide de nos autorités d'abord.
Parmi ceux qui sont de retour, il y en a qui n'ont plus rien dans leur localité. Tout a été détruit par les occupants. Ils reviennent les mains vides comme Fatima Wallet.
Parce qu'avant de quitter, nous avons enfin presque tout vendu. Nos animaux, nos bijoux, tout ce qu'on pouvait posséder comme bien. Au retour, ça n'a pas du tout été facile. Quand je suis revenu aussi, ils ont saccagé toutes les maisons qui nous restaient ici. Donc on n'avait même pas un abri.
Labib Ould Badi, maire de la commune rurale de Salam. Il avait fui les violences. Il nous parle de son retour sur Tombouctou.
J'ai pris mes charges. Je suis retourné avec 5 familles que j'ai pris en charge moi-même. Les difficultés qu'on est confrontées, c'est les services de sociaux de base. C'est que même les infrastructures existantes n'ont pas été réhabilitées. Donc les gens ne manquent pas de l'eau potable. Ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas l'éducation. Une absence d'autorité sécuritaire, une absence d'autorité administrative.
Devant les populations de Tombouctou réunies au centre Ahmed Baba, le haut commissaire pour les réfugiés a pris des engagements, Antonio Guterres.
Et pour que ça puisse se faire d'une façon organisée, il faut la paix, la sécurité et les investissements en éducation et santé et agriculture dans les régions où les gens vont revenir. Et après, l'HCR aura la possibilité d'appuyer le retour.
Il faut signaler qu'avant de quitter Bamako, le haut commissaire des réfugiés aura des entretiens avec le haut représentant du chef de l'État chargé des dialogues inclusifs, Modibo Keïta, le président de la République et certains membres du gouvernement. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Rubrique éducation pour terminer l'émission. Nous sommes au Togo aujourd'hui où les classes de maternelle, le préscolaire, est un luxe réservé à une infime partie des enfants. Pourtant, c'est une étape importante dans la réussite future des cursus scolaires. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
85% des enfants togolais ne font pas le préscolaire. Les privilégiés qui représentent les 15% sont issus des milieux urbains et vivent dans des familles relativement riches. Une étude dirigée par Alain Minga, consultant de la petite enfance, vient de sortir ces statistiques et démontre l'importance de l'éducation pour les enfants issus des milieux défavorisés.
Le préscolaire a des effets très considérables sur les apprentissages en primaire. Et ces enfants qui n'ont pas de préscolaire sont des pauvres et des ruraux. Alors qu'on sait que le préscolaire a un impact particulièrement important sur les familles vulnérables. Ceux qui n'ont pas dans leur ménage, dans leur maison, un environnement favorable, l'école a un impact particulièrement important sur eux.
La petite enfance est confrontée à d'énormes difficultés, résumées ici comme des besoins par Tinkasama, point focal de la petite enfance au Togo.
Au niveau de la petite enfance, nous avons plusieurs besoins. On a besoin d'un curriculum qui est en train d'être développé. Et il faut former aussi les éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Et le besoin crucial, c'est d'avoir aujourd'hui le document de politique annexé d'un plan stratégique pour sa mise en œuvre.
La politique nationale de développement de la petite enfance est un enjeu pour le Togo et il est primordial que le pays définisse des indicateurs avec des résultats clés, estime le consultant Alain Minga.
Le vrai enjeu pour le Togo, c'est d'augmenter de façon significative la couverture du préscolaire. C'est-à-dire, c'est quoi le programme national de développement de la petite enfance au Togo pour les 10 années à venir? Et ça, c'est le vrai enjeu qu'il y a. Mais il y a une grande occasion à faire un programme national qui serait fort, qui permettrait d'économiser des sommes importantes dans le primaire et donc d'autofinancer les dépenses du préscolaire. Et donc ça, c'est un enjeu formidable. C'est comme une perche. Et si on ne la prend pas, on va tomber dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va rester avec nos 15% et dans 5 ans, on en aura 16 et dans 10 ans, on en aura 18 et on aura toujours 82% des enfants qui n'auront pas de préscolaire.
L'enquête sur les pratiques éducatives familiales au Togo et le bilan des compétences des enfants entrant au cours préparatoire première année CP1 ont relevé que le préscolaire doit constituer une préparation pour chaque enfant devant intégrer le CP1, ce qui lui assurera un apprentissage plus aisé et une meilleure efficacité au système éducatif togolais. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Celle plus, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Brian Marcoulier qui était à la technique. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Pispa du Sénégal et le single Diamp. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter. VOA Sahel+. bonne soirée et bonne nuit à tous. Dembe tay ak su bo su nexe no pass nigga bu mo mona tay.